Parmi les apôtres de Jésus, certains avaient été au départ des disciples de Jean-Baptiste. On le sait notamment par le début de l'évangile de Saint Jean. Ils avaient été donc formés par Jean-Baptiste. Ils l'avaient certainement admiré, ils avaient été impressionnés par une telle personnalité, par ce prophète hors norme. Ils l'avaient vu également accueillir sans grand ménagement les foules qui venaient à lui. Ce sont des textes qu'on entend en décembre, au moment de l'Avent, des textes forts, où on entend Jean-Baptiste dire « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisons donc des fruits qui expriment votre conversion, votre véritable conversion. » Et ses disciples avaient appris, en effet, auprès de Jean-Baptiste, une autre exigence que celle de la loi, une autre exigence que celle des pharisiens, une exigence plus intérieure, une exigence de cohérence de vie, la conversion, une exigence de cohérence et non de conformité extérieure à des pratiques légales. Ils avaient surtout été préparés à accueillir le Christ que Jean leur avait désigné sans hésitation et sans équivoque. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et ils avaient donc laissé le Baptiste pour suivre le Christ. Et il faut se rendre compte du changement et des efforts que cela leur a demandé, qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons vivre, s'il fallait prendre un exemple plus actuel pour nous, dans la vie professionnelle, quand nous changeons de patron, d'équipe, de statut ou de mission. Pour ne prendre qu'un exemple, à la différence de Jean qui était installé au bord du Jourdain, Jésus, nous le voyons dans l'Évangile, nous le suivons ces différents dimanches, bouge tout le temps. Et nous voyons à quel point les foules ont du mal à suivre, mais les disciples, évidemment, aussi. Ces foules qui cherchent, qui suivent Jésus, sont par ailleurs assez différentes de celles qui étaient autour de Jean-Baptiste. Auprès de Jean-Baptiste, c'était essentiellement des croyants qui étaient conscients de leur faiblesse et de leur péché, qui venaient pour un baptême, le baptême de Jean, qui était un rituel de purification, et qui lui demandait aussi « Que devons-nous faire ?» Et d'une certaine façon, nous leur ressemblons à bien des égards, nous, le dimanche. Nous sommes des assemblées de croyants qui sommes conscients de nos péchés, qui cherchons la conversion, la purification de nos âmes, qui voudrions bien savoir ce que nous devons faire concrètement dans notre vie. Et même le prêtre que je suis, même si, bien sûr, j'agis au nom du Christ, je ressemble également, d'une certaine façon, à Jean-Baptiste qui disait « C'est pas moi !» Je ne suis pas le Christ, c'est pas moi. Auprès de Jésus, ou les foules qui venaient à Jésus, ces foules étaient composées de beaucoup plus de malades, de souffrants, d'infirmes, d'estropiés, de malheureux, de possédés. Beaucoup plus qu'autour de Jean-Baptiste, pas seulement parce que Jésus faisait beaucoup plus de miracles, mais parce que Jésus est la compassion en personne. Il est la plénitude de l'amour de Dieu. Et Jésus, on peut le dire ainsi, faisait beaucoup plus de miracles parce qu'il était l'amour, parce qu'il avait beaucoup plus d'amour. Et l'évangile de ce dimanche le dit de façon très sobre, alors que les foules affluaient de partout, et même, l'image est forte, certains en courant. Jésus fut saisi de compassion. Saisi de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de Jean-Baptiste ? Est-ce que Jean-Baptiste était devant les foules saisi de compassion? Je laisse cela à votre prière ou votre réflexion. Mais nous-mêmes, posons-nous la question pour nous. Devant les foules, qu'est-ce que nous éprouvons? Qu'est-ce que nous éprouvons à la vue de tant de malheurs, de violences, de divisions, de misères, d'abandon? Et autour de nous, voire très proche de nous, souvent à l'intérieur même de nos familles, toutes ces personnes sans espérance, toutes les personnes de plus en plus nombreuses à vivre sans Dieu. Jésus fut saisi de compassion. Il est pris aux entrailles. C'est une image qui s'applique au cœur d'une mère, mais qui dit aussi le peu que nous savons de la miséricorde de Dieu. La miséricorde divine, misericordia, le cœur sensible à la misère du monde, à la misère d'autrui. Quand chaque personne très âgée, très fragile, est pour vous comme votre propre grand-père ou grand-mère, quand chaque femme est votre mère ou votre sœur, quand chaque être qui pleure est pour vous votre unique enfant, Jésus était bouleversé par la souffrance. Probablement Jean-Baptiste était plus rugueux. Et je dis cela pour comprendre l'effort que ça demandait à ses disciples qui a été formé par Jean-Baptiste. Mais c'est vrai pour nous-mêmes. Quel effort cela nous demande pour entrer dans la tendresse de Dieu, dans la douceur du Christ. C'est avec tendresse que je pense assez souvent à ces femmes que je voyais à l'église Saint-Louis d'Antin quand j'y étais. Elles arrivaient le matin de Saint-Sulpice où elles avaient suivi une première messe. Elles étaient passées rue du Bac pour en prendre une deuxième. Elles arrivaient à Saint-Louis d'Antin pour une troisième. Elles allaient à la mi-journée, à la quatrième, à la cathédrale. L'après-midi à Notre-Dame des Victoires. Ensuite au Perpétuel Secours. Et puis elles finissaient au Sacré-Cœur de Montmartre. Sept églises, sept messes en une journée. Si ça, c'est pas de la piété. En réalité, c'est une dévotion très ancienne et toujours actuelle qui s'appelle le pèlerinage des sept églises. Pas plus tard qu'hier matin, un pénitent qui passait, qui avait une journée qu'il voulait consacrer à Dieu, je lui dis « Allez, sept églises dans la journée, pas forcément sept messes. » Et vous pouvez remplacer, prendre l'une ou l'autre parmi les différentes basiliques de Paris, c'est l'occasion d'en découvrir l'une. Par exemple, Sainte-Jeanne d'Arc qui est à côté de l'église Saint-Denis, Porte de la Chapelle, l'une ou l'autre qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'en multipliant les messes, on augmente la charité? Il y a une autre question plus cruciale, c'est de savoir, en les diminuant, qu'est-ce qui se passe en les diminuant? Il y a un homme très sympa qui est venu me voir, qui ne va plus à la messe. Pourtant, il était bien formé, sa maman a été longtemps catéchiste ici. Et il vient me voir, il me dit, je sais que j'ai tort pour mes enfants. C'est pas bien, je devrais les emmener. Mais il ajoute, je ne supporte plus l'hypocrisie des catholiques. Je lui dis, moi ça ne me gêne pas. Je ne vaux pas mieux qu'eux. Je n'ai pas l'impression d'être différent. Et puis j'ai essayé toutes sortes d'arguments. Je lui ai dit, vous me le dites, vous voulez vivre l'amour du prochain. Où est-ce que vous trouverez la force de vivre cela, sinon dans la force du Christ, la grâce des sacrements? Où est-ce que vous allez pouvoir prendre un temps d'arrêt régulier chaque semaine? D'abord pour goûter, pour savourer ce que vous vivez d'heureux, ce que vous me dites. Tout ce qui se passe de bon dans votre vie, en rendre grâce, remercier le Seigneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est quand même préférable et plus prudent de préparer le jour de votre rencontre avec votre Dieu? Et par toutes sortes d'arguments semblables, Je me suis employé à le raisonner, jusqu'à ce que soudain, je lui montre le Christ en croix, le crucifié. Quelle insensibilité faut-il avoir ? Faut-il s'être construit ? Quelle insensibilité pour regarder Jésus-Christ mort pour nous, sans avoir le cœur saisi de compassion. Et je lui ai promis, et je peux vous faire aussi à vous aussi cette promesse, que si tous les jours vous demandez au Seigneur, pas comme ça en passant, mais vraiment avec sincérité, insistance, pas entre deux portes, en vous arrêtant quand même, en prenant un temps respectueux, si tous les jours vous demandez au Seigneur, « Seigneur, c'est vrai que tu me connais et que tu m'aimes ?» Si tous les jours vous demandez ainsi au Seigneur s'il vous aime, d'ici la fin de l'été, vous saurez. Vous saurez ce que le Christ attend de vous, ce qu'il attend de chacun de nous, ce qu'il est venu nous enseigner, la compassion. Ce n'est pas une grâce ou une qualité qui serait réservée à certains. C'est la vocation de tout chrétien. C'est notre mission, notre mission. Mission, compassion.